RCF.
Les personnages de l'Ancien Testament sont innombrables et souvent très hauts en couleur, et parmi eux des femmes, bien sûr, de grandes figures féminines auxquelles vous consacrez un livre, Nicole Vray. Bonjour.
Bonjour Véronique.
Ce livre s'intitule « Grandes femmes de l'Ancien Testament », il est paru chez Desclée de Brouwer. Nicole Vray, vous êtes doctoresse lettres, vous êtes membre de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Caen, vous êtes l'auteur de nombreuses biographies. Et donc, nous allons avec vous, dans cette série d'émissions, évoquer un certain nombre de ces femmes, de ces figures féminines qui sont devenues incontournables et dont les prénoms souvent évoquent quelque chose de plus ou moins précis dans l'esprit des gens. Ces femmes, vous en avez retenu un très grand nombre dans votre livre. Nous, eh bien, nous avons choisi d'en retenir 5. Alors, le choix n'a pas été facile, mais j'imagine que déjà pour vous, la sélection, disons, de celles que vous alliez évoquer dans ce livre n'a pas dû être simple non plus. Alors, qu'est-ce qui vous a guidé ?
Voilà, vous avez tout à fait raison, c'était la première question. Desquelles allons-nous parler ? Voilà. Avec l'éditeur, on était d'accord sur la ligne du livre. On savait ce que l'on voulait montrer qu'elles avaient fait, ces femmes. Voilà. Donc, à partir du moment où on a un fil, on va à la pelote et on déroule et on trouve la descendance, la bénédiction, etc. Bon, il y en a d'autres qui ont porté ça. Mais celles-ci nous ont paru peut-être, et pardon si j'en ai oublié, mais on fait rien, on fera 2 autres tomes, c'est pas grave. nous ont paru particulièrement intéressantes et quand même connues, dont les noms chantent.
Donc, on parlera de Sarah, voilà. De Déborah, de la reine de Saba.
Voilà.
Dans votre livre, il est bien sûr aussi question de Judith, d'Esther, de Marie, d'Ève.
Et oui.
Expliquez-nous votre approche.
Effectivement, l'angle d'attaque, pour moi, c'est toujours l'histoire. Les personnages font l'histoire, bien entendu, mais l'histoire après va, entre guillemets, se servir des personnages pour se poursuivre elle-même.
À travers ce qu'ils ont impulsé, initié.
Exactement. Et là, on a exactement ça avec ces grandes femmes de l'Ancien Testament. On va voir quels actes elles font, soit guerrières, soit maternelles, soit peu importe. Et l'histoire après n'est plus la même, quand elles ont agi. Déborah va sauver le peuple, Sarah va avoir une descendance, etc. Leurs actes sont porteurs d'un futur. Et ce futur est évidemment tributaire de ce qu'elles auront apporté.
La suite de l'histoire.
On va commencer avec Sarah et on essaiera de procéder à peu près de la même façon à chaque fois, c'est-à-dire en commençant par situer ces femmes à partir des textes qui nous parlent d'elles dans l'Ancien Testament, bien sûr. Donc Sarah, totalement associée à Abraham. Qu'est-ce qu'on sait de Sarah ?
Tout le monde peut ouvrir sa Genèse et prendre l'histoire d'Abraham et trouver Sarah et toute l'épopée de Abraham et Sarah, comment ils quittent la Mésopotamie, comment ils arrivent en Égypte, ce qui se passe en Égypte, comment l'Égypte, très important l'Égypte, comment ils repartent d'Égypte. Et là intervient Agar. Pas jamais oublier Agar, c'est un trio, c'est Abraham, Sarah et
Agar. Qui est Agar ?
Bon, il y a eu des histoires un peu compliquées entre Abraham et le Pharaon, et quand ils partent, le Pharaon offre à Abraham, pour son départ, des cadeaux, des animaux, comme on faisait toujours à l'époque, et des servants. Et dans les servants et dans les serviteurs, dans les domestiques, il y a Agar, qui est donc
femme,
égyptienne. C'est une femme. C'est une jeune femme égyptienne qui va les suivre. Et l'affaire qui va se passer, c'est que Abraham et Sarah ne peuvent pas avoir d'enfants, de descendance, et Sarah va prêter, entre guillemets, sa servante Agar à Abraham, et il y aura la naissance d'Ismaël. C'était tout à fait légiféré, c'était les lois assyriennes depuis bien avant.
C'était des pratiques
qui avaient cours. Quand un couple n'a pas d'enfant, il demande à une servante, une mère porteuse, tout simplement.
En quelque sorte, ouais.
Et l'enfant qui va naître sera adopté par le couple et devient l'enfant qui hérite, qui fera le culte des ancêtres, etc. C'est vraiment l'enfant légitime. Et la mère biologique disparaît. Sauf que là, Agar ne disparaîtra pas.
C'est ça. Et puis ce qui est important à préciser, c'est que Sarah est une femme âgée qui ne peut plus avoir d'enfant.
Oui, l'affaire, c'est pas d'enfant.
Et alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi alors, est-ce qu'Agar d'abord ne disparaît pas?
Ismaël va naître, c'est donc l'aîné. Et quand il est né, par intervention divine, etc., Abraham et Sarah vont pouvoir quand même avoir un enfant qui s'appellera Isaac. Alors pourquoi il s'appelle Isaac et pourquoi il s'appelle Ismaël? Ismaël, ça veut dire en hébreu « Dieu a entendu ». Et Isaac, ça veut dire « il a ri ». Alors, pourquoi il a ri? Parce que il
s'arrête. On dit que Sarah a ri.
A ri. Oui, 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 tout le monde a ri. Voilà. Et donc, et quand l'enfant naît, il s'appelle Isaac. Alors, c'est pour ça que Agar ne disparaîtra jamais de l'histoire, parce qu'elle a porté Ismaël. Et comme elle est égyptienne, Ismaël sera le représentant pour l'islam plus tard. Tandis que Isaac restera le représentant pour le judaïsme.
Extrait de la Bible en film. Abraham.
Sarah, y a-t-il une chose que le Seigneur ne puisse pas faire? Penses-tu que tu es trop vieille pour enfanter? Pourquoi as-tu ri?
Je n'ai pas ri.
Oh si, pourtant tu as ri. Tu enfanteras un fils d'Abraham et tu lui donneras le nom d'Isaac, ce qui signifie « il rira ».
Vous avez parlé de descendance, c'est ça le mot-clé. C'est-à-dire voilà. Que ce qui est en jeu là dans cette histoire,
absolument.
Et ce que porte Sarah, au sens propre et au sens figuré,
tout à fait.
C'est la descendance de sa famille
de
et d'Abraham.
Famille. Alors c'est très très important l'histoire de descendance parce que c'est le problème de la démographie. C'est vrai que derrière le mot descendance, il y a la famille, il y a la tribu, il y a etc. Bien sûr, mais il y a aussi, il faut pas perdre de vue qu'il y a un problème de nombre. Dans ces temps, les hommes partent et se font tuer dans les guerres. Les femmes restent seules. On sait bien qu'elles meurent toutes en couche, les enfants aussi, etc.
Donc, il y a une mortalité énorme.
Voilà. Donc, il y a vraiment un problème de démographie. Et le nomadisme, les famines, les épidémies, on oublie cet aspect. Or, le nombre, c'est la force du groupe à l'époque. Il faut qu'il y ait du monde. Et ça rapporte tout ça.
Oui, alors, oui. Ces textes-là, Nicole Vray, qu'est-ce qu'ils nous disent aussi de la façon dont on vivait à cette époque? Est-ce que, pour les historiens, ils sont précieux de ce point de vue-là ou bien ce sont pas des textes très fiables?
Non, c'est très intéressant. Mais il faut évidemment aller un petit peu à la loupe. Il faut lire l'hébreu parce qu'on a les racines qui donnent d'autres sens, etc. Mais même si on n'a pas l'hébreu, on peut décrypter et on peut effectivement...
S'appuyer sur ces textes?
Oui, exactement. Vous voyez, bon, pour Sarah, on a tous les problèmes de descendance, de famille, etc. Pour les autres femmes que nous verrons, on aura le problème du veuvage, la place de la prostitution.
Est-ce qu'on est capable de les dater, ces textes?
Oui, bien sûr.
Celui-ci, par exemple,
oui,
celui
sûr.
Qui concerne Sarah et Abraham,
oui,
le texte de la Genèse, on sait à quel moment il a été écrit.
Oui. Alors maintenant, bon, on a tourné autour de ça pendant des décennies. Maintenant, c'est à peu près clair, sauf Ève, dont on reparlera. Alors, quand on parle datation, il y a deux questions. Il y a la question de la date du fait. Par exemple, les Assyriens. OK, les Assyriens, c'est moins 800. Par exemple, Judith et Holoferne. Mais l'histoire est racontée en moins 300. Vous voyez, datation au pluriel, la date du fait et la date de la rédaction.
Et voilà. Là, pour Sarah?
Alors, pour Sarah, pour autant qu'on en sache aujourd'hui, dans l'état actuel de nos connaissances, actuellement, surtout toutes celles que nous avons choisies là pour parler ensemble, c'est à peu près rédigé en période post-exilique, c'est-à-dire 6e, 5e siècle. Avant, bien sûr, moins 6e.
Avant Jésus-Christ.
Quand on dit post-exil, c'est, vous savez, l'exil de Nabucodonosor II qui a pris Jérusalem en moins 586 et qui a déporté une partie de la population, en général cultivée, à Babylone. Et voilà, et on a commencé à écrire à ce moment-là. Donc, sauf Ève, dont on reparlera, qui est beaucoup plus ancien.
Nicole Vray, après avoir évoqué la figure de Sarah, grande femme de l'Ancien Testament, nous allons cette fois-ci évoquer Déborah, en précisant que chacune des femmes que nous avons retenues s'inscrit dans une époque ou un temps. Et pour Sarah notamment, comme c'est le cas pour Rebecca, Léa et Rachel ou Tamar, on est dans le temps des patriarches. Oui, et ça, vous y tenez beaucoup.
Ah oui, oui, mais c'est important. Oui, oui, mais j'aime beaucoup dire aussi le temps des matriarches. Parce qu'on dit toujours des patriarches, soit, bon, d'accord, bien sûr, Abraham et les autres. Mais enfin, ces femmes, elles étaient leurs femmes. Et c'est elles qui ont porté, justement, depuis les enfants jusqu'à leur mission, etc. Alors, je trouve qu'on devait rajouter le temps des patriarches, /matriarches. C'est juste pour me faire plaisir.
Sarah est une matriarche?
Ah oui, bien sûr. Ah ben bien sûr. Oui, 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 bien sûr.
Comme Rebecca et les autres.
Bien sûr, bien sûr.
Alors cette fois-ci, avec Déborah, on est plutôt dans le temps des juges.
Voilà.
Parce que, vous allez nous l'expliquer, Déborah est une juge.
Est une juge, c'est la seule. Voilà, c'est la seule femme juge. Alors les juges d'abord, qui sont-ils? Ils ne sont pas juges. Ils gouvernent, parce que juger, en hébreu, ça veut dire gouverner. Contrôler, etc. Donc, quand on dit le temps des juges, on a l'impression d'un bonhomme qui est en robe noire et puis qui va asséner une sanction. Pas du tout. D'ailleurs, Déborah, qui est la seule grande prophétesse et juge, parce qu'elle est prophète aussi, elle siège sous un palmier dattier. Alors, il faut insister là-dessus parce que on dit toujours l'arbre sacré, c'est l'olivier. Bien sûr que c'est l'olivier. Mais on oublie le palmier dattier qui n'est pas un arbre sacré, mais qui est un arbre très important. Vous pouvez tout faire avec un palmier dattier. Vous pouvez construire une maison, vous pouvez faire le toit de la maison, vous pouvez manger, vous pouvez faire de l'huile, vous pouvez cuisiner, vous pouvez faire des bateaux, vous pouvez tout faire.
Et donc, siéger sous cet arbre?
Eh ben,
qu'est-ce que ça symbolise?
C'est avoir choisi, vous savez, nos rois siégeaient sous des chênes. Et ben là, elle siège sous un palmier dattier. J'insiste parce que je pense que c'est pas par hasard si nos Hébreux ont dit qu'elle siégeait sous un palmier dattier et pas sous un petit buisson ou quelque chose. Et puis bon, c'est imposant aussi, un palmier dattier, c'est haut, ça donne de l'ombre aussi, il fait chaud là-bas. Il faut penser à tout ça. Et on peut l'imaginer, voilà, sous son palmier dattier en train de parler, de dire, et on va voir ce qu'elle va dire d'ailleurs, qui est assez redoutable.
Alors,
et c'est notre Déborah qui est pas très connue finalement. Hein. C'est pour ça que je vous remercie de l'avoir choisie, parce que il y a d'autres juges et d'autres prophètes, mais franchement, Déborah d'abord c'est la seule femme et elle a une importance considérable. Alors en matière de guerre, elle, hein, voilà.
Alors qu'est-ce qu'on nous en raconte? Donc on l'a dit, ça se trouve dans le livre des juges.
C'est pas très long hein, sur elle, c'est pas très très long. Et elle aussi, comme on avait Sarah et Agar. On va avoir Déborah, et non pas un homme, mais Déborah et Yaël. Yaël, Y-A-E-L-E, c'est une autre femme, parce que Déborah prophétise, alors là on est en guerre, hein, donc elle prophétise la victoire de Dieu sur les ennemis de Dieu, sur les Cananéens, parce que les Hébreux, on n'est pas du tout dans le monothéisme, et commence à penser à un Dieu unique, tandis que les Cananéens encore non. Donc, elle va prophétiser la victoire des Hébreux sur les Cananéens, mais grâce à une autre femme qu'elle ne nomme pas. Et cette femme s'avérera être précisément Yaël. Alors, Yaël, c'est qui? Yaël, c'est quelqu'un qui est d'une tribu qui est censée être en paix. C'est très important. Qui est censée être en paix. Alors, pourquoi c'est important? Parce que lorsque l'ennemi qui s'appelle Sisra va fuir la bataille parce qu'il risque d'être tué, il fuit vers une tente qu'il pense être amie. Vous comprenez? Parce que sous cette tente, on est censé être en paix.
C'est la neutralité, en quelque sorte.
Exactement.
Donc, il se réfugie sous cette tente.
Exactement.
Où se trouve Yaël.
Exactement. Et là, on a l'accueil du Proche-Orient ancien, c'est-à-dire un hôte arrive, on l'accueille. On le nourrit, on le couvre d'une couverture, etc. Sauf que...
Ça se gâte.
Ça se gâte, parce que quand on est Yaël, redoutable, guerrière, et on veut venger son peuple, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On le fait boire, et quand il a bu, on lui enfonce un pieu dans la tempe.
Et on le tue.
Ah ben écoutez, un pieu dans la tempe...
Mais en général, on
se
remet mal.
Que... Il lui fallait une grande force, d'ailleurs, entre parenthèses, hein, comme Judith et Holoferne. Ces femmes avaient une force redoutable.
Ça fait référence à ces femmes qui tuent l'ennemi.
Elles tuent l'ennemi.
Pour sauver le peuple.
Absolument. Déborah, c'est une femme qui va... Ce qui est intéressant, d'ailleurs, pourquoi pas un homme? Je n'ai pas la réponse.
J'allais vous poser la question.
Non, je n'ai pas la. Moi, je peux pas inventer un texte. Je n'ai pas la réponse. Déborah dit, ce sera une femme. Bon, très bien. Et on apprend que ce sera Yaël. Pourquoi pas le mari d'Yaël? Pourquoi pas un autre? Elle a choisi une femme.
Extrait de l'oratorio de Handel, intitulé Déborah, est donné pour la première fois en 1733.
RCF, la suite de l'histoire.
Vous me faites penser à quelque chose que j'ai mis dans l'épilogue, parce que j'ai fait une part belle à ces rédacteurs bibliques. Parce que finalement, on parle de patriarcat, de misogynie, de voilà. Mais en réalité, pour autant qu'on en sache, ce sont des hommes qui ont écrit ces textes. Et ces hommes ont été apparemment, et plus qu'apparemment, frappé de la force de ces femmes. Ils respectent ces femmes. Je dis à un moment donné, je ne sais plus où, qu'elles ne sont même pas supérieures aux hommes, elles sont comme les hommes.
Et elles jouent des rôles clés. Elles ne sont pas du tout des personnages de seconde zone.
C'est extraordinaire à cette époque.
C'est pas des personnages de l'ombre.
Absolument pas. C'est fou comment ils ont su les hausser. Elles peuvent être mères de famille, prophétesses, créatrices ou autres. Ils ont compris que c'était elles qu'il fallait mettre en exergue. Vous
voyez. Et donc là, Déborah, c'est elle qui prophétise la victoire de Barak.
Oui.
Et qui.
Mais par le biais d'une femme.
Par le biais d'une femme, c'est vraiment ce qui arrive. Alors là, qu'est-ce que ça nous raconte encore une fois, Nicole Vray, du mode de vie de cette époque-là?
De toute façon, les guerres. Là, en historicité, on a les guerres, on a le conflit des, entre guillemets, des premières religions, on a la tradition de l'accueil de l'étranger, on a les prophètes qui prophétisent, on en a une qui le fait, et c'est une femme. On a la force d'une autre femme qui va marcher sur tous les tabous pour accomplir sa mission, parce que c'est ça aussi, c'est la mission qu'elles ont toutes. La mission de Yaël, c'est de sauver son peuple. Voilà. Donc, elle le fait. Et c'est la prophétesse qui est juge qui va l'annoncer. Donc, on a à la fois le contexte historique, le contexte quasiment, et pas du tout quasiment, le contexte sociologique, le contexte guerrier, et puis ces femmes, quoi. La personnalité, la personnalité de ces femmes.
Est-ce qu'on peut situer dans le temps Déborah et les textes qui parlent d'elle?
Alors, c'est toujours pareil. Le temps des juges, c'est avant la royauté, précisément, parce qu'après les juges, il y aura Samuel, David, etc. Donc, c'est, voilà. Mais les rédactions, toujours pareil. Alors, la rédaction des juges, c'est toujours moins sixième. C'est toujours post-exilique.
On ne sait jamais précisément qui a rédigé les textes.
Ah non.
C'est trop compliqué,
pas d'auteur.
Ça.
Ah, c'est même pas compliqué. On n'a pas les auteurs. Tous les textes sont anonymes. On a tellement pas d'auteurs, si j'ose dire, que pour certains autres textes, on a des vrais problèmes de rédaction. C'est-à-dire qu'on va avoir trois fois la même chose, ou au contraire, deux fois dit d'une certaine façon, et puis une autre fois, on comprend plus rien.
Donc des textes qui ont été recomposés?
Que sont recomposés, qui sont réécrits. On a, par exemple, dans Genèse, je sais pas si vous vous souvenez, on a à un moment donné les quatre fleuves, vous vous souvenez, on a brutalement, au milieu de Genèse 1, l'histoire de ces quatre fleuves qui sont entre nous, et pour parler vulgairement, comme un cheveu sur la soupe. On suppose que c'est un scribe qui a rajouté ces quatre versets sur les quatre fleuves, etc. Voilà, on a des ajouts, on a des corrections. Peut-être certaines fois, c'est presque des commentaires, mais pas d'auteur. Puis c'est réécrit au fil des temps. C'est pour ça qu'on dit toujours environ, vous comprenez. On ne peut pas dire ça a été écrit en moins 408. Mais non, on n'en sait rien du tout. C'est entre ces 6e, 5e siècle. Vous voyez, c'est très... Voilà. Mais au moins, on peut dater maintenant, alors qu'avant, on ne le faisait pas.
Est-ce que Déborah a été à l'origine d'œuvres d'art, a inspiré des artistes ou...
Toutes ont fait l'objet d'œuvres d'art. Ça, c'est clair.
Parce que leur parcours, leur mission et ce qu'on nous raconte d'elles dans les textes bibliques font d'elles des héroïnes quand même.
Ce sont des héroïnes et elles ont fait marcher l'imaginaire au galop. Au galop. Et on va en parler d'elle tout à l'heure, la reine de Saba, celle dont on a le moins de choses, qui a été la plus riche en imaginaire. Ça, c'est extraordinaire.
Nicole Vray, nous poursuivons avec vous l'évocation des grandes femmes de l'Ancien Testament. Et après avoir évoqué Sarah et Déborah, nous nous arrêtons aujourd'hui sur Ruth. On est toujours dans le livre des juges, hein, quand on parle de Ruth. C'est toujours la même période, la même époque. Et pour resituer les choses, on est entre 1200 et 1000 avant Jésus-Christ.
Tout à fait.
Ruth, c'est le contre-exemple des mauvaises relations entre une belle-fille et sa belle-mère.
J'aurais jamais pensé présenter Ruth de cette façon, mais c'est tout à fait ça. Ah oui. Ruth fédère toutes les qualités, si j'ose dire. Et c'est objectif, hein, quand on déroule sa vie. Alors, Ruth, la Moabite.
Qu'est-ce que c'est qu'une Moabite?
Alors, ce sont les étrangers. Les Moabites, c'est le pays de Moab, à l'est, là, voilà. Je fais le geste qu'on ne voit pas à la radio. Et c'est un pays ennemi, donc toujours pareil, des Hébreux, etc. Donc, quand on dit Ruth, la Moabite, c'est Ruth, l'étrangère, Ruth, l'ennemi, qui est encore dans le polythéisme. Alors, comment on la trouve, Ruth? On la trouve parce que sa belle-mère, précisément, sa belle-mère, Noémie, et ses fils sont partis de Bethléem en Moab, en pays de Moab, pour des affaires de famine. Et là, on a aussi un des aspects de l'histoire. Ils sont nomades et semi-nomades, on n'insistera jamais assez. On l'a dit pour Sarah, beaucoup, nombreuses sont celles qui sont soumises à ces mouvements de population.
À cause de la famine,
à
notamment.
À cause de la famine, c'est, voilà, et puis la sécheresse. Alors la famine, c'est ou la sécheresse, ou le déluge, enfin, peu importe, mais voilà. Donc, elle est partie en pays de Moab. En pays de Moab, elle marie ses fils à des Moabites, dont Ruth, trois fils, trois belles-filles. De nouveau, famine, mort des fils, et elle veut rentrer à Bethléem. Et elle propose à ses trois belles-filles, toutes les trois veuves, de rester chez elle en pays de Moab. Deux acceptent, restent en pays de Moab, et seule Ruth dit à sa belle-mère, « Non, moi je te quitte pas, je te suis jusqu'au bout. » Et jusqu'au bout, c'est vraiment jusqu'au bout du bout, parce que c'est quitter sa région natale, son pays de Moab, c'est aller dans un pays qu'elle ne connaît pas. Ça déjà, pour tout le monde, même quand on déménage maintenant, c'est un bouleversement. Bon. Donc imaginez à l'époque, avec une politique différente, avec une religion différente et une famille qu'elle ne connaît pas.
Adieu, Ruth, et que le Seigneur te bénisse.
Je ne rentre pas à Moab.
Extrait du film « L'histoire de Ruth », réalisé en 1960 par Henry Koster.
Si tu ne rentres pas à Moab, où iras-tu alors?
Avec toi.
Avec moi? À Bethléem? C'est un long et périlleux voyage. Qui sait, nous pouvons même être poursuivis. Et puis, une Moabite peut ne pas être bienvenue à Bethléem. Tu dois rentrer avec Orpah, ma fille. Et puisse le Seigneur être bon pour toi, comme tu le fus pour les morts et pour moi. Je te presse d'y retourner.
Ne me presse pas de te laisser. Ne m'interdis pas de te suivre. Car là où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu.
RCF, Véronique Alzieux.
Et ce qui est important, vous venez de le dire aussi, c'est qu'elle, en faisant ça, elle renonce à sa religion.
Ah oui.
Pour adopter celle de sa belle-mère et donc du Dieu unique.
Eh ben voilà, exactement. Elle porte beaucoup de générosité. Donc elle se retrouve à Bethléem, pauvre, pauvre, si pauvre que là on a trois points de tradition de l'époque. Et on les a parfaitement expliqués. Et un, on se trompe. Alors je voudrais qu'on ne se trompe pas plus sur ce point-là que je vais vous dire. Alors, le premier, c'est la glanure. La glanure, on a glané longtemps, même jusqu'au 19e. Vous savez, on fauche et puis il tombe des épis et les pauvres ont droit de venir glaner. Et Ruth va glaner, tellement elles sont pauvres, sa belle-mère et elle. Et juste une parenthèse sur l'hébreu, parce que c'est très beau, même pour les gens qui ne savent pas l'hébreu, je peux quand même dire qu'il y a un mode de verbe qui est très intensif en hébreu. Et quand on montre Ruth en train de glaner, on la montre en train de glaner à ce mode intensif.
C'est-à-dire que vous voulez dire que les verbes utilisés en langue hébraïque sont...
ont des modes. Donc ça peut être réfléchi, etc. Et il y en a un qui est l'intensif. On ne sait pas traduire. Comment on glane à l'intensif? Voilà. Alors, à mes étudiants, on dit on glane à l'intensif parce qu'on ne sait pas glaner beaucoup, beaucoup, ou on glane tout le temps. Voilà. Comment on traduit?
Deuxième point,
le lévirat. Donc, Noémie, la belle-mère, est veuve. Rôle des veuves, on va en reparler. Et elle ne veut pas que sa belle-fille reste veuve. C'est très compliqué pour une jeune femme de rester veuve. Il faut se remarier. Et voilà que Ruth glane sur le champ de Boz. Tout le monde a lu Victor Hugo, Ruth et Boz endormis, etc. Voilà. Boz, il fait partie de la famille de Noémie. Et normalement, quand une femme devient veuve, le lévirat, c'est d'épouser le frère du mari mort. Boz n'est pas le frère du mari mort, mais il fait partie de la famille. Donc, la belle-mère pense à la loi du lévirat pour que Boz épouse un jour Ruth. Et là où les gens se trompent, c'est l'histoire du rachat. Les gens pensent, beaucoup, on me l'a souvent dit, que cette histoire de rachat, c'est pour payer la dot de Ruth. Mais pas du tout.
Quel rachat ?
Il y a toute une négociation. Il y a souvent des négociations d'achat dans l'Ancien Testament. Pour Sarah, il y a la négociation de Abraham pour acheter la terre où il va enterrer Sarah. C'est un modèle du genre de négociation du Proche-Orient. C'est magnifique. Il faut relire ça. Bon. Et là, il veut racheter un terrain qu'il redonnera à Noémie. Et on dit, ben voilà, il paye. Il paye rien du tout. Il va faire un don. C'est ça la confusion. Faudrait pas continuer à faire cette confusion parce que c'est rabaisser d'abord la loi du lévirat et le rôle de Boz qui rachète pour redonner et pas du tout pour acheter. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est pas une contrepartie.
C'est pas du tout une contrepartie. Quand on lit attentivement, on voit très bien ça.
Donc Ruth épouse Boz.
Et alors elle va épouser Boz avec une histoire de manteau, c'est-à-dire que Ruth est Boz endormie. Reprenons tous Victor Hugo. Elle met un pan de manteau, c'est une couverture, un pan de manteau sur les pieds de Boz endormi. Et quand Boz se réveille, c'est toute une symbolique qu'on retrouve dans une réflexion allemande qui dit « Être sous le même manteau de quelqu'un, c'est être complice. » Ils sont complices, il va l'épouser. C'est symbolique. Ce pan de manteau ou de couverture posé sur eux deux, c'est qu'ils sont promis l'un à l'autre. Donc ils vont se marier. Et l'affaire du mariage, c'est très intéressant, c'est qu'un enfant va naître, qu'ils va s'appeler Oved. Oved, ça veut dire « serviteur de Dieu ». Donc c'est pas n'importe quel serviteur, c'est pas n'importe quel dieu, et ce petit Oved, qui grandira et aura lui-même et d'autres descendances, sera l'ancêtre de Jésus.
Et donc Ruth,
voilà.
Et dans la généalogie du Christ, enfin de Jésus.
De Jésus, dans la généalogie de Matthieu, car il y a deux généalogies de Jésus, dans Matthieu et dans Luc. Seul Matthieu donne 5 femmes, la première c'est Ruth.
Parce que cette femme est veuve.
Voilà,
parce que c'est une étrangère.
Cette femme étrangère qui en déménageant, si j'ose dire, en épousant Boz, Ruth la Moabite devient Ruth l'ancêtre de Jésus, a adopté d'autres coutumes, a adopté d'autres, une autre religion, a été fidèle à sa belle-mère, etc. Elle porte toute une générosité. Voilà, c'est un bouquet de générosité, Ruth.
Et puis c'est aussi le symbole de l'étranger à qui on s'ouvre, qu'on accepte.
Théoriquement, oui. Je dis bien théoriquement parce que quand on lit bien le texte, il y a quelques passages, par exemple quand elle épouse Boaz, les anciens acceptent la femme. Ils la nomment pas. Ils acceptent déjà pas mal, mais ils acceptent la femme.
Pourquoi ? Du bout des lèvres, mais... donc ?
Interprétation. Mais oui, pourquoi pas, hein, voilà, on peut essayer de comprendre et de se remettre. Vous savez, quand on fait de l'histoire, il faut se remettre dans le contexte, hein, essayer de voir ces anciens qui voient une étrangère arriver, qui épouse Boaz, qui est un homme riche, qui est un homme connu, qui est un
plus
homme respectable,
qu'elle.
Beaucoup plus âgé qu'elle, etc. Bah, mettez-vous à leur place, je veux pas être désagréable, mais voilà, qui est cette jeune femme qui arrive et ouais, qui était si pauvre qu'elle glanait, et puis elle se fait épouser, et puis elle a un enfant, bon, on accepte, on a évidemment, on a bien obligé d'accepter, mais il ne la nomme pas. Et c'est la belle-mère qui sera, entre guillemets, la nourrice sèche de l'enfant.
C'est-à-dire que Ruth donne son fils
à
Noémie.
Et absolument.
Vous parliez de mère porteuse précédemment. Est-ce qu'on peut aller jusque-là ?
Non, pas là, parce que là, c'est vraiment l'enfant de Boaz et elle. C'est l'enfant du couple, voilà. Mais c'est quand même la belle-mère, la grand-mère, c'est la grand-mère qui sera la nourrice sèche. Vous voyez, bon, après, il faut pas en faire un cas d'école, hein, bien sûr, mais il faut, en histoire, relever tous les points, même ceux qui nous dérangent un peu. Quitte à dire, ça m'a dérangé, ou au contraire, c'était amusant, c'est pas grave.
Et alors là, qu'est-ce qui peut déranger, là ?
Eh bien, que les anciens ont accepté du bout des lèvres, que c'est la grand-mère qui est la nourrice sèche, vous voyez, il y a 2-3 points comme ça autour du mariage et de la naissance. Voilà, il y a les sages-femmes, il y a une histoire de sages, il faudrait relire, il y a une histoire de sages-femmes aussi. Voilà, mais c'est pas grave.
Mais c'est tout l'Ancien Testament qui est comme ça.
Ah,
bah,
c'est
toute
tout
façon.
L'Ancien. Ah, bah, c'est pour ça que je vous dis, l'historien, il faut qu'il vive la vie de ces personnages. S'il les vit de derrière son bureau, il fait de l'anachronisme. Et s'il vit pas comme eux, sans faire d'anachronisme, il s'en détache un peu, il les aime pas.
Nous poursuivons l'évocation de l'Ancien Testament avec vous, Nicole Vray, à travers des grandes figures féminines. Et s'il en est une qui se détache peut-être de façon un peu particulière, ou en tout cas qui est très connue puis qui a suscité une imagination folle, c'est la reine de Saba. Alors qu'on situe, elle, dans le temps de la monarchie, c'est-à-dire entre 1000 et 900 avant Jésus-Christ, la reine de Saba, rien que quand on prononce ce mot... L'imaginaire se met en route. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de la reine de Saba dans la Bible que peut-être beaucoup d'entre nous n'imaginaient pas trouver dans ce livre-là ?
Alors, bah écoutez, pour faire vite, rien.
C'est ce que vous dites aussi en introduction. C'est-à-dire voilà, que l'histoire est assez, finalement, d'une banalité qui pourrait paraître assez affligeante.
C'est fou, il y a, je crois, une dizaine de versets, il n'y a rien, voilà. Et ce personnage sur lequel on a le moins de choses à donner... Le plus riche imaginaire possible, que ce soit au cinéma, en peinture, en tout ce qu'on veut, en péplum, en tout ce qu'on a voulu.
En musique.
En musique. La reine de Saba est là. On ne sait pas si elle est noire ou blanche. On ne sait pas si elle est jeune ou vieille. On ne sait pas si elle est laide ou belle. On ne sait rien. Et pour une bonne raison, c'est que probablement, elle n'a pas existé. Voilà. Alors attention, le royaume de Saba, oui, ça on connaît bien, j'ai fait une page, on connaît le royaume de Saba qui est très riche, on sait ce qu'ils exportent, ce qu'ils exportent, ce qu'ils importent, là ça va bien, géographiquement et de date ça va bien, mais la reine ça va moins bien.
C'est-à-dire que rien n'atteste qu'elle ait réellement existé ?
Absolument, et même si on va très loin et sans faire de peine à quiconque, si elle est allée voir Salomon a-t-il existé ? Vous savez qu'il y a de gros débats en ce moment. Ce sont de vrais débats de fond. Pour la forme, parce que de fond, c'est pas très grave. De fond, ce qui compte, c'est quoi ? C'est la transmission. C'est ce qu'a transmis Abraham, ce qu'aura transmis Moïse, ce qu'a transmis David, Salomon, ce que veut dire la reine de Saba. On va voir. Avec rien, on peut faire un chapitre, comme vous avez vu. Parce que quand on tire le fil de l'histoire, il y a des tonnes de choses qui arrivent et qui sont très intéressantes et qui aident à comprendre. Le peu que nous avons, finalement, on le comprend très bien.
Et dit quelque chose donc, de cette histoire, chose, alors de l'Alliance, mais de l'histoire du peuple hébreu, de l'histoire de l'humanité,
oui,
en quelque sorte.
Alors là, oui, oui, pour tous les autres, mais là, c'est précisément et très particulièrement sur Salomon. En réalité, la reine de Saba, pour faire vite, et de façon peut-être pas très élégante, c'est le faire-valoir de Salomon. Les scribes ont choisi une femme, qu'on suppose riche, oui, puisque le royaume de Saba, c'est riche. Donc, une femme riche, qu'ils intitulent reine, pourquoi ils n'ont pas envoyé un homme? Ils ont envoyé une femme pour voir ce fameux Salomon. Qui est ce Salomon dont on dit tant de choses sur les richesses, la sagesse, etc.
La puissance, quoique,
il y a beaucoup de choses à dire. Je l'ai mis d'ailleurs sur Salomon, entre les guerres, entre les femmes, entre les assassinats, etc. Salomon n'est pas la vie de Salomon n'est pas un long fleuve tranquille, hein, loin de là. Bon, mais là, la reine de Saba y va pour voir sa richesse, sa sagesse.
Donc, elle va lui rendre visite.
Elle lui rend visite. C'est une visite comme on en attend en ce moment, de monarque à monarque. Voilà.
Extrait de l'oratorio de Handel, intitulé Salomon, et présenté pour la première fois le 17 mars 1749.
Alors, ça commence par le chemin qu'elle prend pour aller jusqu'à Jérusalem. Et je fais encore ce geste que les auditeurs ne peuvent pas voir. Le long de la côte, là, elle monte, voilà, à chameau. Et on peut s'étonner, les Assyriens ne bougent pas, ils sont à côté. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une peur bleue des chameaux, ils ne connaissent pas. Et en outre, elle n'utilise que ces routes caravanières que eux connaissent bien. Et eux, pour les caravanes, ont leur route caravanière, ils connaissent ça par cœur, ça va bien. Donc là, on les suit, j'allais dire, à la trace. Vous voyez, on peut les suivre. Elle arrive à la cour, enfin, on va dire à la cour, hein, de Salomon. Voilà, et qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce qui se passe de nos jours quand deux chefs d'État se rencontrent. Ils se font des cadeaux, ils se font des compliments, ils visitent les palais. Mais quand même, elle veut savoir s'il est... Alors, elle voit la richesse. Bon, ça, d'accord. Ils se font des cadeaux fastueux, bien sûr. Bon, ça va bien. Mais l'histoire de la sagesse, comment va-t-elle savoir comment il est sage? Alors, la sagesse de Salomon, vous savez, c'est l'enfant non coupé pour les deux mères qui se disputent l'enfant. Vous vous souvenez de ça? La sagesse de Salomon, le jugement de Salomon, tout le monde se souvient de ça. Bon. Et alors, elle va se servir de quoi? Et ça aussi, c'est, on est en plein Proche-Orient ancien et voilà, mille et une nuits, quoi. Elle va lui poser des énigmes. Et il faut voir comment il va répondre. Et de quelles énigmes s'agit-il? Eh bien, on n'en sait rien du tout. On ne nous le dit pas. Pourquoi? Parce que ça n'a pas d'importance. La question que pose l'énigme et la réponse que donne Salomon, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il va bien répondre. Alors, j'en ai mis une ou deux, mais que j'ai retrouvées dans d'autres textes pour donner quelques idées des énigmes qu'on pouvait poser autrefois. Mais c'est pas du tout dans la Bible, hein. C'est retrouvé, je ne sais plus où, mais je l'ai mis. Toutes les sources sont là, bien sûr. Ils se font encore des tonnes de cadeaux, et puis elle s'en va. Fin de l'histoire.
Je suis Salomon, roi d'Israël et de Juda. Je te souhaite la bienvenue au nom de mon peuple.
Extrait du film La Bible en film, Salomon.
L'écho de ta renommée, Salomon, roi d'Israël et de Juda, a gagné Aksum et le royaume de Saba. J'ai voyagé à travers le désert pendant des mois pour venir me baigner dans l'océan de ta sagesse. Et assister à ta remarquable adresse sur un âne. Je suis Makeda, reine de Saba.
Qu'est-ce que ça dit tout ça ?
Alors, ça dit que, justement, à mes yeux, ces scribes ont voulu montrer une femme curieuse, comme si les hommes ne l'étaient pas, ça c'est un autre débat, une femme curieuse de voir, de vérifier ce qu'elle a entendu dire. Voilà. Ils ont misé là-dessus.
Sur la réputation,
sur la réputation, voilà. Et je vous dis, c'est le faire valoir. Tout ce qu'elle va lui demander, tout ce qu'elle va voir, doit aider à faire monter encore davantage la réputation, le prestige, la richesse et la sagesse de Salomon.
Mais ce Salomon, en quoi est-ce qu'il est si important ?
Alors, Salomon est important pourquoi ? D'abord parce que c'est, dit-on, le fils de David. Le fils de David. D'abord, Salomon ne s'appelle pas Salomon. Salomon s'appelle Salomon, mais s'appelle aussi Yedidia. Ses parents sont David et Bethsabée. Bon. Or, Bethsabée était mariée. Quand David la séduit et qu'elle se laisse séduire, c'est la femme de Uri. Elle est aussi dans la généalogie de Jésus dans Matthieu, sous le nom de femme d'Uri. Pas Bethsabée, femme d'Uri. Et amour adultérine, ils ont un enfant. Cet enfant meurt, parce qu'on est en Proche-Orient ancien, et quand on a désobéi à Dieu et qu'on a fait un acte mauvais, on est puni. La punition, ça peut être mille choses, dont la mort. C'est la mort de l'enfant. David a un mal fou à se remettre de la mort de l'enfant. Il y a de très beaux versets sur le chagrin de David, sur la mort de cet enfant qu'il aimait. C'est très émouvant. Et puis, David fait tuer Uri à la guerre. Uri est donc mort et donc peut avoir un couple légitime avec Bethsabée. Et un autre enfant naît qui va s'appeler soit Salomon, Shalom, la paix, le pacifique, c'est vrai, mais il s'appelle aussi Yedidia. C'est le prophète Nathan qui lui donne ce nom. Pourquoi ? Parce que Yedidia, ça veut dire béni de Dieu, parce que cet enfant légitime et légitimé est donc béni de Dieu. Voilà. Alors ça c'est la naissance de Salomon. Et puis bon, il va être le grand roi qu'on nous dit connaître, avec le grand roi bâtisseur, le grand roi guerrier, le grand roi à femmes, le nombre de femmes légitimes et concubines qu'il a eues, etc. Les richesses de Salomon, la sagesse de Salomon, qui a toujours dépassé tous les siècles, voilà. Et voilà. Et donc cette reine de Saba, qui n'a probablement pas existé, qui est dans le mythe total, est là pour monter encore l'image de Salomon.
Qui est un personnage clé de l'histoire des Hébreux, de l'histoire du peuple d'Israël.
Oui, parce que c'est le début de la royauté. Parce que c'est le début de la royauté, parce qu'il a construit le temple à Jérusalem. David a choisi, le père a choisi Jérusalem comme capitale, mais il n'a pas construit le temple sur les conseils du fameux prophète Nathan dont on vient de parler. Et c'est le fils Salomon qui construira le temple pour garder l'arche d'alliance, etc. Voilà. Donc, du point de vue religieux, c'est très important.
Nicole Vray, pour terminer ces entretiens, nous allons évoquer deux femmes. On va dire celle par qui tout a commencé, et celle qui, en quelque sorte, est l'instrument de ce par quoi tout va s'achever.
Et commencer autre chose.
Et inaugurer, oui. Inaugurer autre chose. Ces deux femmes, ce sont Ève et Marie, voilà, qu'on appelle aussi quelquefois la Nouvelle Ève.
La Nouvelle Ève, exactement.
Alors, en termes d'historicité, soyons clairs, tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que Ève est un mythe. Adam et Ève sont des mythes.
Complètement.
Les textes de la Genèse sont des textes mythiques.
Complètement.
Ce qui n'enlève évidemment rien
Absolument,
à leur valeur,
bien sûr. Bien
y compris leur valeur exégétique. Et pour les croyants, ce sont des textes fondateurs, bien sûr.
Absolument. Et Ève en particulier, il y a 4 mythes fondateurs pour la Genèse. Mais on en retient un là pour Ève et particulièrement, c'est le mythe de Enki, qui est un grand dieu, et Ninhursag, qui est une déesse mère. Le mythe de Enki et Ninhursag, hein, c'est leur nom au dieu et à la déesse mère. On a l'histoire de la côte, la fameuse côte. Alors là aussi, confusion, mais qui est à peu près levée maintenant, quoique. Bon, tombe tombe tranquillement et lentement, mais sans doute sûrement, la légende de Ève tirée de la côte d'Adam, qui n'est même pas Adam, qui est un être vivant, un être d'argile à qui on a donné le souffle pour vivre, voilà. Et pourquoi ? Parce que on a cette histoire dans Enki et Ninhursag, et cette côte en sumérien se dit, il y a un mot qui se dit Ti, T-I. Et Ti veut dire à la fois, comme de nombreux mots, que ce soit en sumérien ou en français, a plusieurs sens. Et ça veut dire à la fois la vie et le côté. Donc, de traduction en traduction et de traduction en légende et de légende en tradition, on arrive à dire tiré de la côte de Adam, qui n'est donc même pas un Adam, qui est tiré de Ti. Alors, est-ce qu'elle est tirée d'une vie? Est-ce qu'elle est tirée d'un côté? Est-ce, vous voyez, toutes les questions qui vont se poser.
Sachant que dans la Genèse, il y a deux textes.
Voilà, il y en a même trois anthropologiques. Il y a le Genèse 1 qui est cosmogonique, voilà, l'univers, etc. Et les Genèse 2 et 3 qui sont anthropogoniques et qui sont la création des êtres, disons, des êtres vivants, dont seront le Adam, puisque c'est pas encore un prénom, et Ève. Et là, c'est un prénom.
Mais deux textes aussi qui racontent la création de l'homme.
Oui.
Alors, dans l'un, il s'agit de l'homme au sens générique du terme, que ça sous-entend homme et femme.
L'humanité.
Et puis le deuxième texte dans lequel on distingue l'homme de sexe masculin et la femme de sexe féminin. Donc.
Tout à fait. Et je suis ravie de pouvoir dire oralement ce que je mets par écrit, mais je l'ai déjà dit oralement, que la femme est première créée sémantiquement. Parce que femme, ça se dit Isha. Et dans Genèse 17, verset 22, vous avez Isha qui précède Ish, l'être masculin sexué. Donc Isha, la femme, est créée la première, sémantiquement, je dis. Hein, voilà. Et elle s'appellera la première, elle aura un prénom, Ève, Yava, la vie. Et le Adam, il aura beaucoup plus tard son prénom. Adam n'a jamais été un prénom, il est beaucoup plus tard, il est au chapitre 4, je crois.
Le glaiseux.
Oui, ça c'est Chouraki qui dit ça. Moi je dis être d'argile, puisque voilà, glaiseux, c'est pas très joli. Mais bon, mais c'est ça que ça veut dire, il est tiré de Adam. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que Adama, l'argile, existe avant le Adam. Donc quand on dit que Adama, c'est parce qu'il y a eu Adam, c'est l'inverse. On dit Adam parce qu'il y avait Adama, puisqu'il est tiré de Adama.
La matière.
De la matière, de l'argile. Adama, c'est l'argile, vous voyez.
Alors Ève, revenons à Ève, qui la pauvre a porté et continue de porter tout le malheur du monde, c'est le cas de le dire.
Eh ben oui, mais parce qu'on a fait des confusions sur les traductions, on a fait des confusions sur le serpent. Il faudrait faire une magnifique émission sur le serpent, qui est un être magnifique. Quand je dis ça, tout le monde se lève et s'en va en courant. Eh bien non, je vous assure, c'est un être magnifique. D'abord, il était toujours magnifique en Proche-Orient ancien. Déjà, c'était un être sacré, puisqu'il symbolisait l'immortalité. Il était vénéré. Il s'enroule, donc c'est le symbole de l'immortalité, etc. Et c'est si vrai que la seule chose qui nous reste du serpent en bon, comme diraient les Hébreux, ce sont les caducées de nos pharmacies, sans quoi on en a peur, etc. Bon, bref. Et si on reprend le texte de la Genèse, le serpent est un personnage fabuleusement intéressant. Pourquoi ? Il est dérangeant. Alors, je vous l'accorde, il est dérangeant. Il est dérangeant, mais il est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il pousse les gens au bout de leur raisonnement. Il les force à dire, il les force à parler, il les force à aller jusqu'au bout de ce qu'ils ont à dire ou de ce qu'ils ont cru.
Alors, c'est ce qu'il fait avec Ève.
C'est ce qu'il fait avec Ève. C'est ce qu'il fait avec Ève. C'est le dialogue entre le serpent et Ève est magnifiquement intéressant. C'est du style, t'es sûr qu'on t'a dit ça? Et Ève répond, ah oui. Et lui, non mais attends, réfléchis, re-réfléchis. T'es sûr qu'on t'a dit que t'allais mourir? Je vous le dis en plaisantant, mais si on lit comme ça, ça prend un tout autre aspect et surtout une toute autre personnalité, si j'ose dire, pour le serpent et pour Ève. Mais la tradition s'en empare avec une pomme qui n'a jamais été une pomme. Bon, c'était un fruit, pourri ça veut dire fruit, et Jérôme traduit par pomme et c'est resté pomme, alors que dans Enki et Ninurta, il y a des pommes et des grenades. Mais peu importe.
Alors on parle aussi de l'arbre de la connaissance.
Ah, ben bien sûr, et c'est l'arbre de la connaissance qui est bien plus important. Alors là aussi, on nage dans les mythes fondateurs et dans le Proche-Orient ancien. L'arbre de la vie, c'est l'arbre de l'éternité, qui seront défendus par les fameux kéroubim, vous savez, qui donneront nos chérubins. Et ces kéroubim défendent cet arbre de la vie, pourquoi? Parce que l'éternité n'appartient qu'à Dieu. Tandis que la connaissance, d'ailleurs, dans le texte de la Genèse, on a les dieux qui dit, le Dieu qui dit, mais ils vont être comme nous, parce qu'on est encore au pluriel, on est encore dans le polythéisme, ces êtres qui s'y mangent ce fruit de la connaissance, ils vont être comme nous, ils vont savoir. Le problème de la connaissance, il est déjà là. Qui peut connaître? Que va-t-on faire de la connaissance? Est-ce mal de savoir? Est-ce mauvais de savoir? Tout le problème du débat sur la connaissance et quasiment du pouvoir, hein, dominant, dominé, celui qui sait, celui qui ne sait pas, ça, tout est là. Tout est dans la Genèse.
Ce texte, on sait à quel moment il a été écrit, là encore?
Alors ça, c'est le plus ancien. C'est le plus ancien, c'est le moins huitième. Moins huitième. On s'accorde à penser aujourd'hui, en étant toujours très prudent, que c'est probablement le plus ancien, le moins huitième.
Alors pourquoi est-ce qu'on dit, quand on parle de Marie, que c'est la nouvelle Ève? Est-ce que quand on dit ça, on se situe forcément du point de vue de la foi?
Oui, obligatoirement. Alors avec Marie, mon problème avec Marie, si j'ose dire, ma petite Marie, c'est que des gens m'ont dit, t'es femme de l'Ancien Testament, tu mets Marie. J'ai d'abord dit non. Marie, c'est le Nouveau Testament. Voilà, et puis j'étais d'une sincérité, voilà, et d'une certitude. Hein. Voilà, on me dit, mais attends, réfléchis donc. Ben, j'ai réfléchi, et ben non, bien sûr. Elle est née, comme on dirait, sous l'Ancien Régime, sous l'Ancien Testament. Elle est pétrie d'Ancien Testament. Elle est pétrie des traditions, d'abord de vivre avec Joseph, etc. Elle est imbibée de la culture de l'Ancien Testament. Le problème, c'était qu'elle porte un enfant qui va s'appeler Yeshua en hébreu. Il sera Jésus plus tard en grec. Mais elle porte un petit Yeshua, un petit juif, un petit hébreu, un petit Yeshua. Et ce petit Yeshua, il va devenir Jésus. Et là, on bascule dans le Nouveau Testament, on est dans une autre ère, et Marie a donc porté, avec son enfant, elle a porté une autre ère chrétienne, et la difficulté, c'était où couper? Eh bien, où couper? Au temple. Quand il est grand, entre guillemets grand, et quand déjà, il s'annonce comme le futur Jésus, si vous voulez. Mais jusque-là, la naissance, la montée au temple, etc., c'est de l'Ancien Testament.
Là, sur le plan de l'historicité de Marie, il n'y a aucun doute?
Ah non, là ça va bien. Encore qu'on n'ait pas grand-chose non plus, hein, c'est comme la reine de Saba. Marie, si vous comptez le nombre de versets dans le Nouveau Testament, que ce soit les évangiles ou chez Paul après, franchement, on n'a pas grand-chose.
Mais ce sont les seuls textes dans lesquels il est question de Marie?
Ah, pas du tout. On a tous les apocryphes qui disent tellement de choses sur Marie. Et ce qui est très intéressant,
c'est que... Je rappelle que les apocryphes sont les textes qui relatent la vie de Jésus, mais qui n'ont pas été retenus dans le canon des Écritures.
Exactement. La vie de Jésus, donc de Marie, donc de Joseph, donc on a des apocryphes sur Joseph qui montrent Joseph, c'est amusant d'ailleurs et c'est émouvant, désemparé, il a une fiancée enceinte, qu'est-ce qui va se passer? Les apocryphes c'est tardif, hein, c'est du 2e au 10e siècle. Mais cependant, toutes nos traditions comme la crèche, le bœuf l'âne, etc. viennent des apocryphes.
Donc ils étaient,
voilà, donc ils étaient cachés, on n'en voulait pas, ils n'étaient pas dans le canon, comme vous dites, mais cependant ils ont donné toute la tradition chrétienne aujourd'hui, pour tout le christianisme, hein, catholique, orthodoxe et réformé.
Donc Marie,
elle est la transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament, elle est celle qui porte l'Ancien et qui annonce le Nouveau, si je puis dire. Elle a toute la culture de l'ancien et elle va annoncer toute la culture du nouveau.
Un très grand merci, Nicole Vray.
C'est moi qui vous remercie,
de nous avoir parlé de ces grandes femmes de l'Ancien Testament. Je rappelle que vous leur consacrez un livre paru chez Desclée de Brouwer. Ça s'appelle « Grandes femmes de l'Ancien Testament ». Et puis, je rappelle également, Nicole Vray, que vous êtes membre de l'Académie des sciences, arts et belles lettres de Caen et que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, notamment chez Desclée de Brouwer, consacrés à de grandes figures. Merci encore d'avoir été l'invité de cette émission et merci à Christophe Morag qui l'a mise en onde.
Merci beaucoup.